الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخوتي في الله ما زلنا مع قراءة كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. وقفنا في درسنا الماضي عند الباب السابع ألا وهو باب عقوق الوالدين. باب عقوق الوالدين معنا حديث من؟ المغيرة بن شعبة. حديث المغيرة ابن شعبة. نعم اقرأ إن شاء الله.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال.
بارك الله فيك. سميع.
وراد رضي الله عنه اكتب المغيرة ابن شعبة أجيب معاوية اكتبي المغيرة écris-moi ce que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Warrad a dit, alors j'écrivis de ma main, je l'ai entendu interdire de poser trop de questions, dilapider l'argent et colporter des ragots.
Non. Barakallahu fik. طيب. Non. Dan yaqul al-Sheikh Raslan hafidhahullah ta'ala ma'na كثرة السؤال أي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإلحاح في سؤال الناس فيما لا حاجة إليه سواء سألهم أموالهم بغير حاجة أو سأل عن المشكلات والمعضلات التي لم يبتلى بها التي لم يبتلى السائل بها فلماذا يسأل عن ذلك الأمور فتشمل هذا وهذا تشمل هذا وهذا. نعم. Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم d'après donc Al-Mughira ibn Shu'bah. Donc il a dicté le hadith ou la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à son scribe qui s'appelait Warrad. C'était le scribe de Al-Mughira ibn Shu'bah. Il lui a dit donc, à l'attention de Muawiyah, qui voulait donc que Al-Mughira lui transmette un hadith. Ou de ce qu'il a entendu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, écris, j'ai entendu qu'il a interdit premièrement kathratu su'al. Kathratu as-su'al. L'abondance de questions. L'abondance de questions. Ou la multiplication des questions. Non. Donc il dit ici le cheikh, le messager sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. C'est-à-dire le fait de poser beaucoup de questions, d'insister en posant ces questions-là sur des sujets dont on n'a pas besoin. Sur des choses, des détails, des sujets qui ne sont pas nécessaires à connaître. Que ce soit une demande de bien matériel, ça peut être le fait que la personne demande à quelqu'un d'autre des biens matériels, de l'argent, des objets, des choses matérielles, sans besoin, ou alors le fait qu'elle pose des questions sur des situations, des problèmes, des cas qu'elle ne rencontre pas, ou par lesquels elle n'est pas éprouvée. Hein? On avait posé la question, on avait cité comme exemple la semaine dernière la question d'un frère qui avait demandé yani, par rapport à celui qui voit un serpent chez lui. Un serpent fait al-manzil chez lui. Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il fait l'inzar. C'est-à-dire, il dit au serpent, il lui dit Ukhruj bi salam, fala tu'dhini, mathalan. Hein? Sors de chez moi en sécurité et ne me fais pas de mal. Il dit ça combien de fois? Trois fois. Si le serpent il ne sort pas, il peut le tuer. Mais il y a un hadith où il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ukhtulu fi salat al-aswadain. Al-Hayya ou al-Aqrab. Tu es dans la prière, alors que vous êtes en prière, si vous voyez les deux noirs, entre guillemets, le serpent et le scorpion. Tu vois, Taïb ? Et le frère, il a posé la question, mais donc si on est en prière, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on parle en prière, alors qu'on est en prière, on parle ou pas au serpent ? Ou est-ce qu'on le tue directement sans lui parler ? Le cheikh Ahmed Soubaï'i, fadahu Allah ta'ala, قال لي هذا من افتراض السؤال أو افتراض المسائل هذه المسائل تسمى المسائل الفرضية يعني لا تدعو الحاجة إلى مثل هذا السؤال خاصة يعني بنا نحن بفرنسا ليس هناك حياة في البيوت طيب Et le cheikh Ahmed Soubaï, fidallah, il m'a dit, ceci fait partie des masail al-fardiyya, où ça rentre dans le domaine du iftirad al-masail. C'est-à-dire le fait d'imaginer des situations qui sont improbables. À la limite, si tu habites dans le désert, ou des choses comme ça, ou des régions où il y a beaucoup de ce genre d'animal, à la limite. Mais nous, en France, ce n'est pas une chose qui... Al-Muhim, tout ça pour dire que le fait de poser des questions sur des situations qui ne peuvent pas t'arriver ou imaginaires, des situations imaginaires, hein, tu t'inventes des situations, des cas de jurisprudence et tu poses la question. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle ici kathratis su'al al-madhmouma, le fait de poser des questions inutiles dont tu n'as pas besoin de poser. D'accord ? ثم يقول والمراد بالسؤال المنهي عنه ما كان في عصر النبي أو في عصر النبوة ما كان في عصر النبوة فالنهي عن السؤال عن الأشياء التي لم تحرم في شريعة الإسلام هذا في عصر النبوة السؤال عن الأشياء التي لم تحرم في شريعة بل المسكوت عنها، المسكوت عنها. فربما يسأل السائل عن شيء مسكوت عنه فيحرم من أجل سؤالي، فيحرم من أجل سؤالي، فيترتب على ذلك الإثم على السائل. فقد جاء في الحديث إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا في عصر النبوة. طيب، أما ما كان في عصر النبوة وبعد ذلك فإن كثرة السؤال المنهي عنه هو سؤال التعنت والتعجيز، سؤال التعنت والتعجيز الذي يصدر من بعض الناس لأهل العلم ليظهر عجزهم وعدم قدرتهم عن الإجابة عن المسائل، أو ربما تعلم شخص حكم مسألة من المسائل الشرعية وامتحن بها عالما، أي تعلم حكما، طيب ثم ذهب إلى مجلس من المجالس وسأل الشيخ، لا بحسن النية لكن ليظهر عجزه، الله المستعان. طيب، وربما يبين السائل حكم المسألة هو بذاته، أي عندما لم يقدر العالم على الإجابة فهو يخبر أنا أعلم كذا وكذا، فيظهر فضله على المعلم الذي سأله، أنا أعلم منه، أنا أعلم من هذا الشخص الذي يدرس للناس وكذا. الله المستعان، هذا إثم عظيم، هذا إثم عظيم لما فيه من عدم احترام العلماء ولما فيه من العبث، لأنه سؤال تعنت والتعجيز. وما كان يفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا اليهود، سبحان الله، اليهود كانوا يفعلون ذلك في عصر النبوة، ومن والاهم من الكفار. أي نعم، ما شاء الله. يجلس الشيخ، وفي الحقيقة هذا مأخوذ من شرح الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. Donc ce qui évolue ici par la question ou les questions interdites. Premièrement, concernant l'époque de la prophétie, c'est-à-dire pendant la période prophétique du vivant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il était interdit de poser des questions sur des choses qui n'étaient pas interdites dans la charia. Au contraire, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu par rapport à ces sujets-là. Il n'a pas dit qu'ils étaient interdits. Taïeb, donc les choses sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était tu, il était interdit de poser des questions sur ces choses-là. Taïeb, parce que à cause de ça, il se pouvait que lorsque la personne pose la question sur quelque chose sur laquelle il s'est tu, il se peut que la chose devienne interdite à cause de sa question. Subhanallah. Et donc celui qui a posé la question aurait pris le péché, ou prend le péché. Serait tombé dans le péché à cause de sa question, qui a fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit la chose à cause de sa question. Car il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, yani, les plus dans la désobéissance ou les plus grands désobéissants parmi les musulmans sont ceux qui posent la question sur une chose
qui n'était pas interdite, mais qui devient interdite à cause de sa question. Subhanallah. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur le péché du fait de faire cela. Donc ça, comme on a dit, c'était à l'époque prophétique, à l'époque du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'époque du vivant aussi, bien sûr, mais après également, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela concerne également les questions, ce qu'on appelle les questions de ta'annut et de ta'jiz. Le fait de vouloir déstabiliser la personne à qui on pose la question. C'est pas on pose la question pour connaître la faïda ou un jugement religieux que l'on connaît pas, mais on pose la question pour déstabiliser la personne ou pour faire apparaître l'ignorance de la personne ou l'incapacité de la personne à répondre. Taïb, eh bien, cela est également interdit. Non. Comme font certains, dit le cheikh, lorsqu'ils s'assoient à une assise de science, eh bien, ils vont poser des questions aux mashayikh, pas pour connaître la réponse, ou pas pour apprendre quelque chose, mais pour montrer que le cheikh ne connaît pas la réponse. Ou que lui, il sait mieux que le cheikh. Il sait mieux que le cheikh. Et non. Il se peut, par exemple, que la personne a appris une mas'ala parmi les mas'a'il, un jugement, puis il va s'asseoir lors d'une assise et il va poser la question sur ce qu'il vient d'apprendre. Et si le cheikh ne connaît pas la réponse, là il va se mettre en avant, il va dire « Cheikh, ceci est haram, ceci est halal », il va sortir les dalils, etc., etc. Il va se montrer aux yeux des gens. Donc il n'a pas posé la question pour savoir, mais il a posé la question pour faire apparaître l'ignorance du cheikh. Donc l'intention, elle est mauvaise. L'intention, elle est mauvaise. Non. Il dit le cheikh, ceci est un péché énorme. C'est un péché énorme. Premièrement, car la personne qui fait ça ne respecte pas le savant. Comment tu poses la question à un savant pour le déstabiliser? Subhanallah. Il est où ton respect pour les savants? Et également parce que c'est une chose qui est totalement futile, dans laquelle il n'y a pas de faïda, dans laquelle il n'y a pas de faïda, d'intérêt. Puis il dit, et ce genre de choses était habituellement faite par Al-Yahoud à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les Yahoud qui faisaient ça, subhanallah. Eh na'am. Kama fi qawlihi tabaraka wa ta'ala wa yas'alunaka 'ani ar-ruh. Yas'alunaka 'ani ar-ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. ذلك أنه لما كانت كلمة الروح كلمة الروح يعرف عنها اليهود يعرف عنها اليهود أنها تطلق ويراد بها أكثر من معنى أكثر من معنى فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو عزوا إلى نفر من الكفار ليسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اليهود بأي واحدة أجاب عنها فنقول لا ليس هذا المقصود كذا وكذا نية فاسدة فكلمة الروح في القرآن قال جل وعلا مثلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما معنى الروح هنا في هذه الآية؟ القرآن. أحسنت. هناك في هذه الآية تطلق كلمة الروح ويراد بها القرآن الكريم. طيب، وفي قوله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، ما معنى الروح هنا أخي؟ جبريل عليه السلام. الروح هنا في هذه الآيات جبريل. وفي قوله تبارك وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهم. يا أصحاب ثلاث أصول، هذه الآية في الأصول الثلاثة، ما معنى الروح هذه الآية؟ وائل، وليد، شرف، معنى الروح المعونة، المعونة من الله عز وجل والنصر منه، وأيدهم بروح منه أي بمعونة منه. أي نعم، كما في تفسير الشيخ سعدي رحمه الله. إذن الروح قد يراد بها جبريل، قد يراد بها القرآن، قد يراد بها المعونة. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أرواح المخلوقات، يعني في شأن المتوفى من بني آدم إذا وضع في قبره قال فتعاد إليه روحه. الروح هنا الأرواح، أي أرواح المخلوقات، وهكذا. أي نعم، فكان اليهود يسألون هذا السؤال ليظهروا عجز النبي صلى الله عليه وسلم، لخبثهم. وقالوا إن أجاب كذا نقول لا ليس هذا، نريد غير هذا. فلذلك لا يجوز امتحان العلماء بأسئلة لا تدعو الحاجة إليها، لا يجوز هذا. أما الذي يجب السؤال عنه فهو أمر الدين، الفروع، الأصول، الحقوق، الفرائض، الواجبات، المستحبات، المكروهات، المحرمات، هذا يجب على المسلمين أن يسألوا عنه العلماء، لكن بحسن نية، بحسن نية، ولإظهار العلم والاستفادة من العلماء وكتابة وتدوين المسائل لمن يعيش بين أظهرهم ولمن سيأتي بعد ذلك. هذا نعم. طيب، donc parmi les exemples de ce genre de d'action qui est le fait de poser des questions à des personnes pour les déstabiliser, pour dévoiler leur ignorance, cela a été fait par le Al-Yahoud. Al-Yahoud, à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont posé la question par rapport à Ar-Ruh, le terme Ar-Ruh. Allah tabarak wa ta'ala, dans la sourate Al-Isra, dans le sens rapproché, il dit « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ » et il t'interroge sur Ar-Ruh. Et Allah lui a dit quoi ? قل الروح من أمر ربي. قل الروح من أمر ربي. Dis-leur ça. Parce que Allah sait que leur question était mauvaise, leur intention était mauvaise. Donc il lui a dit, dis-leur juste, الروح fait partie de des choses de mon Seigneur. يعني des créatures de mon Seigneur. Des créatures de mon Seigneur. طيب. Parce qu'ils savaient, les Yahoud, que le terme Ruh pouvait signifier plusieurs choses. Ils le savaient, ça. Comme on a vu dans les exemples qu'on a donnés, dans le Coran, il peut signifier le Coran ou le Karim, lui-même, Ruh. Pourquoi Allah il a appelé Ruh le Coran? لماذا سماه الله عز وجل روحا ها احسنت نعم لان الا كما ان الروح يحيا به الجسد الروح يحيا به الجسد فالقران تحيا به ماذا الارواح والقلوب وتحيا به مصالح الدين والدنيا طيب. Donc Allah il a appelé Ruh le Coran parce que comme Ruh, l'âme de la personne fait vivre ton corps et bien le Coran il fait vivre son cœur et son âme aussi طيب. Il fait vivre aussi tout ce qui est bénéfique à la religion et tout ce qui est bénéfique à la dunya et le terme Ruh il peut signifier également Jibril alayhi salam, Jibril, Allah il a appelé le Ruh, l'Amin, l'esprit fidèle, comme ils ont traduit. Il peut signifier également l'aide ou le soutien d'Allah tabarak wa ta'ala, dans la sourate al-Mujadala, verset 22. Il peut signifier également dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les âmes des créatures, tout simplement, lorsqu'il dit que, fatu'ad ilayhi ruhu, et son âme, lui sera redonné ou retourné. Hada fil qabr. Quand il a décrit la situation de al-qabr. Donc les Yahoud, eux, ils savaient tout ça. Ils savaient tout ça. Donc ils ont dit quoi? Quelle que soit la réponse qu'il va donner, parmi ces quatre, quelle que soit la réponse qu'il va donner, on va dire non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Ayyub. Donc leur intention, c'était juste de déstabiliser, de rabaisser na'am, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela qu'il est interdit de poser des questions aux ulama dans cette intention-là et ce but-là. Allah al-musta'an. Concernant, bien sûr, les affaires religieuses, que ce soit les branches de la religion, les bases de la religion, les obligations, les recommandations, les interdits, les choses détestables, etc. Bien sûr, il est obligatoire, au contraire, de poser des questions sur les choses que tu ignores. Tu dois les poser. Mais dans une intention d'apprendre et de connaître le jugement religieux. Avec l'intention, pas de dévoiler l'ignorance du cheikh, mais au contraire de faire surgir la science, la connaissance, et de faire profiter également ceux qui sont autour de toi, ou ceux qui viendront après toi. C'est ça l'objectif, de poser des questions aux mashayikh. Après, il y a aussi des questions, des fois, Yanni, est-ce que les anges du ciel nous voient? Est-ce que les anges du ciel nous voient? Subhanallah. Ça ne te suffit pas qu'Allah te voit? Pourquoi tu veux savoir si les anges du ciel te voient? Tant qu'Allah te voit, il nous le dit. Yani, هذا من المسائل جهلها لا يضر وعلمها لا ينفع. Le fait de les ignorer, c'est pas grave. Et le fait de le savoir, c'est pas bénéfique. C'est pas bénéfique. Et ça, c'est le fait de trop vouloir rentrer dans les détails et aller au fond des choses. Et cela ne va pas t'apporter un bien dans ta foi ou rien. Est-ce que les djinns, ils savent ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que les anges, ils savent ce qu'il y a dans ton cœur? Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Classe. Pourquoi tu veux savoir si les anges, ils savent? Il y a des choses. Non, il y a des textes. C'est vrai, il y a des textes. Mais dans tous les cas, ilm al-ghayb, c'est Allah tabarak wa ta'ala, c'est tout, khlas. La science de l'invisible, du futur, de l'avenir, alhamdulillah, il n'y a que Allah qui le sait ça. Après Allah tabarak wa ta'ala, il peut enseigner des choses à des créatures, parmi les créatures qu'il veut. Il peut dire à des choses aux anges que seuls les anges savent. Bien sûr que c'est possible. Mais est-ce que cela va être bénéfique dans quoi que ce soit? Ce qui est important, c'est que tu dois avoir la certitude qu'Allah tabarak wa ta'ala te voit. Et c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est tout. هذا هو المهم. نعم. ثم يقول إضاعة المال. المال ما يميل القلب إليه. المال يسمى مالا. لماذا؟ لأنه ما يميل القلب إليه. وإنما سمي مالا لميل النفس والقلب إليه. وهو الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى كل ما يقتنى يسمى مالا إضاعة المال أي تبذيره والإنفاق له في غير وجهه المأذون فيه شرعا وعدم الاهتمام بحفظه. Puis il dit, la deuxième chose interdite mentionnée dans ce hadith, la dilapidation des biens. La dilapidation des biens, le gaspillage des biens. Donc, al-mal, il a été appelé mal. Pourquoi? Parce que ça vient de al-mail, le fait de pencher. Al-mail. Donc, on l'a appelé mal, justement parce que c'est une chose vers laquelle les cœurs penchent. Hein? Et vers laquelle les âmes et les personnes penchent. C'est pour ça qu'on l'a appelé mal. Subhanallah. Donc, le mal, bien sûr, ça peut être l'or, l'argent, mais ça englobe également tout ce qui peut être possédé et acquéri. Tout ce qui rentre dans la possession et l'acquisition, ça rentre dans le terme el mal. D'accord? Donc, idha'at el mal, c'est-à-dire tabviruhu, la dilapidation des biens, gaspiller les biens. Et le fait de les dépenser dans une chose qui n'a pas été légiférée. D'accord? Donc le fait de dépenser un euro dans le haram, c'est du gaspillage ou pas? C'est du gaspillage déjà. Hein? Yani, t'as pas besoin de dépenser 1000 euros dans le haram. Un euro dans le haram. Un centime dans le haram, c'est déjà du gaspillage. Un an. Après, le gaspillage, c'est relatif dans le domaine du halal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est millionnaire, hein, il se peut qu'il ait trois voitures. Mais est-ce qu'on va dire que ces trois voitures sont du gaspillage? Non, lui, il est millionnaire. Ça y est? Mais celui qui est au SMIC, s'il a trois voitures avec des crédits, c'est du gaspillage ou pas? Bien sûr, c'est du gaspillage. Parce qu'il vit au-dessus de ses moyens. Hein?
On n'est plus dans
la... Oui, encore pire. Vous avez compris ou pas? Donc ça, le gaspillage, c'est relatif aussi. Ça va dépendre, c'est en fonction de la richesse de la personne. On n'est pas tous au même niveau de possibilité ou de capacité. Non. Ou alors le fait de ne pas protéger et préserver ses biens. Ça peut rentrer dans le gaspillage également. Préserver ses biens. Vous voyez? Non. Donc il faut non seulement les dépenser dans le halal, dans tout ce qui est permis, dépenser en fonction de tes capacités, et aussi les préserver, hein, et les protéger. Inna hadha al-mal alladhi a'tahu Allah man sha'a min 'ibadihi la yajuzu li ahadin an yatasarrafa fihi bi infaqihi fi wujuhi al-haram aw ya'khudhahu min wujuhi al-haram sawa'un في المعاملات أو في الغش أو في السرقة والنهب والاختلاس والغصب والربا كل هذه الطرق إذا سلكها من يطلب المال فإنه جنى على نفسه وأتى بأسباب العقوبات العاجلة والآجلة فلا يطلب المال إلا من وجوه الحلال لا يطلب المال إلا من وجوه الحلال ولا حرج لا حرج أن يكثر بين يدي المسلم إذا عرف حق الله فيه لا حرج يكثر المال بين يدي شريطة ماذا؟ أن عرف العبد حق الله فيه بأن أخرج زكاته وكل ما يلزم في المال وواسى منه من يستحق العطف عليه فهو خير له فهو خير له نعم puis dit donc ce bien là qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à qui il veut parmi ses serviteurs il est donc interdit à celui qui le possède de le dépenser dans des choses interdites pourquoi parce que avant que ça lui appartienne ça appartient à Allah tabaraka wa ta'ala avant tout et c'est Allah qui lui a donné donc il ne peut pas en faire ce qu'il veut il ne peut pas en faire ce qu'il veut et il lui est également interdit d'acquérir ce bien là par des moyens illicites donc on voit ici les deux aspects premier aspect le fait de le dépenser dans le haram et le deuxième aspect le fait de le gagner à travers le haram par des moyens illicites ça y est non. Que ce soit dans les mu'amalat le commerce, la vente, l'achat, la location et ainsi de suite les choses des affaires de la dunya les mu'amalat ou le riche la tromperie ou hein, le vol al-nahab, al-ikhtilas al-ghasb tout ça c'est des termes techniques que les juristes connaissent il faut savoir que le vol c'est pas comme le nahab Il faut savoir que le nahb, ce n'est pas comme l'ikhtilas. D'accord ? Donc tout ça, on a le fait de voler quelque chose, on a le fait de ruser pour avoir quelque chose, on a le fait de braquer quelqu'un, un homme, ou d'agresser quelqu'un pour prendre son bien. Donc tout ça, c'est des termes très spécifiques. Pourquoi ? Parce que le al-had al-shar'i, qui est... hein, c'est pas pour tous ces pour toutes les formes de vol ou d'extorcation ou, hein? C'est uniquement pour un vol, un aspect du vol qui est spécifique, qui est précis c'est pas pour tous les types de vol d'accord c'est pour ça que les juristes ils doivent connaître bien sûr tout ça sur le bout des doigts tout ça sur le bout des doigts pour pas les couper à ceux qui ne le méritent pas donc tous ces turuq na'am celui qui a acquis des biens par des moyens illicites ou qu'il a dépensé dans des choses illicites il aura été bien sûr injuste envers lui-même déjà injuste envers lui-même il aura commis un crime envers lui-même car il sera sous la menace bien sûr du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala al-ajila wa al-ajila c'est-à-dire fi dunya wa al-akhira donc al-mal l'argent les biens ne doivent être acquis que par des moyens licites et le musulman il doit s'éloigner le plus possible de ces choses illicites même des choses qui sont ambiguës Des fois, c'est ambigu, des fois. Est-ce que ce salaire, il est licite ? Est-ce que ce travail, il est licite ? C'est ambigu. Il y a du halal, il y a du haram, c'est mélangé. Hein ? وَبَيْنَهُمَا أُمُورُ مُشْتَبِهَاتِ Des umours qui sont ambigus. Mais le musulman, il délaisse. Il doit délaisser. Même ces choses-là, il doit les délaisser. Que dire alors des choses qui sont clairement illicites ? C'est clair, c'est... لا يجوز. Haram. Haram. comment tu touches des aides de l'État des kuffars, RSA ou autre, je ne sais pas, qui normalement ils sont réservés à ceux qui ne touchent rien, qui ne travaillent pas. Et toi, tu travailles à côté. Tu travailles à côté. Et tu dis, je ne travaille pas, je ne touche rien. Donc tu touches non seulement ton salaire, plus les aides de l'État. Il n'y a pas de doute que là, ça rentre dans, des moyens, dans les moyens illicites. C'est illicite. Ton argent n'est pas licite. Il n'est pas licite. Comment tu veux qu'il y ait la baraka dans ton argent, si tu... subhanallah. Ajib. Yani les gens, ils cotisent. Les gens qui travaillent et qui déclarent, eux, ils cotisent. Ils cotisent tout ce qui est pour les aides et tout, c'est eux qui cotisent. Hein. Donc toi, non seulement tu ne déclares pas ton travail, donc tu ne cotises pas, mais tu profites des cotisations. C'est ça le musulman, subhanallah. À ce point-là, on s'est rabaissé. On s'est rabaissé à ce point-là pour dunya. Pour dunya, subhanallah. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah, il est, c'est lui le tayyib. Il n'accepte que ce qui est bon. Tu crois qu'il va accepter de toi? Il se peut qu'à cause d'un euro qui est haram, il se peut qu'Allah tabarak wa ta'ala enlève la baraka de tout tes biens. De tes enfants, de ta nourriture, de ta maison, de ta voiture, à cause d'un seul euro. Et toi, tu touches des 900 euros, des 700 euros, des 800 euros par mois. Ajib. Allah musta'an. Par contre, il dit le shir, c'est pas interdit. Il n'y a pas de mal à être riche. Il n'y a pas de mal à posséder beaucoup de biens ou beaucoup d'argent, à condition que la personne respecte et observe les droits d'Allah tabarak wa ta'ala sur cet argent-là. Notamment en donnant la zakat, hein, en donnant ce qu'il doit donner parmi les aux gens qui sont sous sa responsabilité, sa famille, etc. Taïen, en donnant à ceux qui en ont besoin. Donc s'il fait tout ça, la richesse c'est un bien pour lui. C'est un bien pour lui la richesse. Dans les deux cas en vérité, que ce soit la richesse ou la pauvreté, dans les deux cas c'est une fitna. La fitna elle n'est pas que dans la richesse, elle peut être dans la pauvreté. D'accord ? On a beloukoum bisharri wal khayr fitna wa ilayna turja'oun. Et on vous éprouve par le mal et le bien. C'est pas que par non, par le mal et le bien en tant que fitna pour voir comment vous allez réagir. C'est vrai ou pas? Certains y croient, Allah musta'an, ils croient que ça c'est surtout chez les awam et tout. Ils croient que le fait que la personne elle est pauvre, ils croient qu'Allah ne l'aime pas. Et que la personne quand elle est riche, ah, t'as vu, Allah il l'aime lui parce qu'il est riche. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans sourate Al-Fajr? فَأَمَا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَّعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنْ. Kalla. Rien à voir. Aucun rapport. Parce que t'es riche, alors tu dis ça y est, c'est parce que je le mérite? Non, c'est pas parce que tu le mérites. C'est une fitna. C'est une épreuve qui vient d'Allah. C'est une épreuve qui vient d'Allah. Ibtala. Et pareil pour la pauvreté. Pareil pour la pauvreté, frère. Al-Muhim. Celui qui est riche et qui dépense ses biens dans et qui respecte et observe les droits d'Allah, c'est un bien pour lui, alhamdulillah. S'il fait beaucoup d'aumônes, etc., c'est un khayr pour lui. C'est un khayr. كذلك يصرفه في وجوه الحلال ولا يتجاوز الحلال إلى الحرام كما يفعله من قل نصيبه من خشية الله كالذين يأكلون به المحرمات كالمسكرات والمخدرات وما لا يحل لهم فإنفاق المال في الحرام حرام إنفاق المال في الحرام حرام وإثم، لأن المال مال الله، المال مال الله يا عبد الله. قال الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال مال الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أي نعم، فصاحب المال مستخلف فيه ليعرف حق الله فيه وكيف يعمل فيه. وإذا سئل العبد عن عمره وعن شبابه وعن علمه سئل عن ماله سؤالين: من أين اكتسبت وفيما أنفقته. وهذا دليل على خطر مسألة المال وتجنب هذا الخطر من وجهين. الوجه الأول من ناحية كسبه، يجب أن يكون من وجوه الحلال، هذا من ناحية الكسب، لا حرام فيه ولا شبهة فيه. الوجه الثاني أن ينفق في الحلال كالواجبات والمستحبات والمباحات التي لا يدخل منها إلى إثم. طيب، puis dit celui qui qui a des biens, donc il doit les dépenser dans al-halal. Il ne doit pas dépasser cette limite-là. Il ne doit pas dépasser la limite, la frontière qui va le mener à dépenser dans le haram. Comme font ceux qui ne craignent pas beaucoup Allah tabarak, qui n'ont pas beaucoup de khashya, hein, de crainte pieuse vis-à-vis d'Allah, comme ceux qui consomment du haram, l'alcool, la drogue, les cigarettes, le tabac, hein, ah, chicha, ouais, c'est vrai, la chicha, Allah Moustan, hein, c'est devenu à la mode ça, génération chicha. Avant c'était autre chose, aujourd'hui c'est le chicha. Ne croyez pas que c'est pas grave ou là. Non, c'est grave. C'est grave. Allah tabarak wa ta'ala, il a interdit tout ce qui nuit à la santé. Et les scientifiques, ils disent que la chicha, c'est pire que le tabac encore. Ce qui est pareil, c'est plus nocif encore. C'est plus nocif que le tabac. El Mohim, le fait de dépenser, de dépenser dans le haram, c'est haram. Voilà. قاعده انفاق في الحرام حرام. D'accord, parce que le bien il appartient à Allah tabarak wa ta'ala avant tout, que ce soit de l'argent, hein, des maisons ou même des animaux. Allah tabarak wa ta'ala, il a fait que tu as un troupeau de moutons, un troupeau de vaches. Est-ce que tu fais ce que tu veux de tes moutons? Est-ce que tu as le droit d'en faire ce que tu veux de tes moutons? Tu n'as pas le droit. Ils appartiennent à Allah tabarak wa ta'ala avant tout. Tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Tu dois bien les traiter. Tu dois bien les traiter. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Allah avant tout. C'est pas yani, ouais, c'est des animaux. Mais allez, tu auras des comptes à rendre. Même sur les animaux, tu as des comptes à rendre. Même sur les animaux. Et non. Donc Allah il dit: وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a donné. Et donnez-leur des biens qu'Allah vous a donné, ou des biens d'Allah qu'il vous a donné. Et il dit également dans le sens rapproché: et dépensez de ce qu'on vous a, ou de ce qu'on a mis sous votre possession ou sous votre acquisition. D'accord? C'est-à-dire que dépenser de ce qu'Allah tabarak wa ta'ala vous a donné comme bien. Donc celui qui possède des biens, c'est le khalifa de ses biens. C'est le, hein, le dirigeant de ses biens, entre guillemets. Afin qu'il sache et qu'il connaisse le droit d'Allah tabarak wa ta'ala dans ces biens-là. Non. Donc lorsque le serviteur sera interrogé sur ce qu'il a fait de sa vie, de sa jeunesse, de sa science, on va lui poser la question aussi sur ses biens. Deux questions. Première question, min ayna iktasabta? D'où tu l'as gagné? Comment tu l'as gagné? Comment tu l'as gagné? Première question. Et deuxième question, dans quoi tu l'as dépensé? Dans quoi tu l'as dépensé? Hein? Et chaque centime compte, ikhwa. Chaque centime compte. N'oubliez pas qu'Allah tabarak wa ta'ala n'oublie rien. Mithqal dharra. Mithqal dharra. Mithqal dharra, c'est la chose la plus petite qui soit dans la langue arabe. Il n'y a pas plus petit que mithqal dharra. D'ailleurs, donc ne crois pas qu'un centime c'est rien. Ou un euro c'est rien. Chaque euro, tu rendras des comptes dessus. D'accord ? Comment tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé. Et là, on voit donc hein, le danger de cette affaire-là qui est, elle mêle l'argent. Puis il dit, comment s'éloigner de ce danger-là, justement ? Eh bien, de deux manières. Premièrement, par rapport à la manière dont tu l'as acquis. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses en sorte absolument de l'acquérir que dans les voies licites et qu'il n'y ait rien qui ne soit illicite ou ambigu. C'est ambigu, tu délaisses. Délaisses. Hein? Man waqa'a fi shubuhat waqa'a fi haram. Celui qui tombe dans les shubuhat, il va glisser dans le haram. Parce qu'il est à la limite, là. Il est à la limite. Des fois, hein, quand tu parles à certains, des fois, il y en a certains qui font des travails particuliers, d'accord ? Et c'est ambigu. Tu lui dis, Akhi, ton salaire, t'es sûr qu'il est licite ? Tu te dis, je sais pas. Comment ça, tu sais pas ? Tu sais pas. Et tu continues comme ça à travailler, comme si tous les jours tu te lèves le matin, tu vas travailler, et tu ne sais pas si ton bien est illicite. C'est quand tu vas poser la question? Demande aux gens de science. Demandez aux gens de science. Si vous ne savez pas. Là, par contre, ça ne rentre pas dans la kathara tas-su'al. Là, tu es obligé de poser la question. Tu es obligé, là, subhanallah. Pose la question. Normalement, avant même d'accepter le travail, tu poses la question. C'est pas l'inverse. Aujourd'hui, on achète le travail et après, on commence à se poser des questions. Ah ouais, je sais pas si c'est halal en vérité. Et après, elle te dit, ouais, mais je peux pas. Si je lâche le travail, je fais comment? C'est Allah qui te donne le risque, mon frère. Comment ça, tu fais comment? Allah, il te donne. Toi, tu délaisses une chose pour Allah. Allah te le remplace par mieux. Par mieux. La shak wa la raib. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein? Eh, subhanallah. Pose la question pour être sûr que ton salaire il est licite. Si le shaykh, il te dit, il y a juz, alhamdulillah, khalas. C'est fini, ton cœur il est serein. Si il te dit, utruk. Parce que des fois, ils ne disent pas c'est haram. C'est mieux. Il y a une fille chouba. Dans ce cas-là, c'est tout. Là, tu vas trouver mieux. Il ne faut pas que tu doutes là-dessus. Dénonchante.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم اجعل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده اللهم بارك في الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة بعد الله مقام الهدي وعده طيب دونك Première chose que tu dois ou dont tu dois t'éloigner, le fait d'acquérir ton bien de manière illicite. Et deuxième chose, tu dois le dépenser dans le halal. Que ce soit bien sûr les obligations, ça c'est obligé, mais aussi tout ce qui est recommandé. Hein, sadaqat, parmi les choses recommandées. Ou les choses permises qui ne vont pas te mener par la suite vers le haram. Tu peux dépenser dans tout ce qui est halal, mubah, tout ce qui est nourriture licite, boisson licite, tant que cela ne va pas t'amener vers ce qui est haram ou vers le gaspillage. D'accord ? Non. والواجبات هي النفقات على النفس أولا. الواجبات النفقات على النفس وعلى من يعول وعلى من يتعلق به فتجب نفقته عليه وكذلك إخراج الحقوق الشرعية منه كالكفارات والنذور والزكوات حتى تبرأ من ذلك بخلاف من يعبث في المال ويتصرف فيه تصرفات لا يقرها الشرع ولا يسلم من عقوبتها العاجلة والآجلة لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. Donc les obligations, ikhwa, il y a plusieurs types d'obligations de dépenses. Déjà le fait de dépenser, yani pour soi déjà, alhamdoulillah, et puis pour ceux qui sont sous ta responsabilité. L'épouse, les enfants, hein, les parents, ainsi de, les proches, yani. D'accord ? Et également, il y a tout ce qui est lié aux règles religieuses telles que al-kaffarat. Al-kaffarat, مثلا. Quelqu'un, il a juré sur Allah. Il a dit, je jure sur Allah que je ferai ceci et cela. Puis, il a dû expier son serment car cela n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là ? Hein?
Il paye.
Yassoum, direct, il jeûne direct, 3 jours comme ça. Non. Il a franchi un esclave où il nourrit combien? Hein? 10 pauvres. Ou il les habille. Il a le choix entre ces 3. D'accord? Il a le choix. Soit il a franchi un esclave, bon ça, laisse tomber. Ou soit il nourrit 10 pauvres ou il habille 10 pauvres. S'il ne peut pas ces 3-là, il jeûne 3 jours. Certains ils vont direct dans les 3 jours, alors qu'ils peuvent nourrir. C'est pas valide. S'il peut nourrir, il doit nourrir 10 pauvres ou les habiller. D'accord ? Ou les habiller.
S'il ne peut pas, il jeûne 3 jours consécutifs, c'est mieux. Mais s'il fait 3 jours séparés, il a le droit. Bi'idhnillah azza wa jal, hadha huwa sahih. Wallahu a'lam. Donc, al-kaffarat, ce genre de kaffarat, ça rentre dans les obligations par rapport au bien. Ou al-nudhur, il a fait un nadr. Lillahi atasaddaqu kadha wa kadha. Il est obligé de remplir son nadr. D'accord ? La zakat, et ainsi de suite. Hein ? Donc, contrairement à ceux qui dépensent leurs biens dans des choses que la législation n'a pas permise. Celui qui fait ça, il n'est pas préservé du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le gaspillage des biens. Le gaspillage des biens. Thumma yaqul qila wa qal. Qila wa qala. Masdarani. Masdaran. Taqul al-qil wal-qal. Karrar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-masdar lil-mubalagha fi al-zajr. Fanaha an hikayati aqwal al-nas. Qala qilan wa qala qalan. Hathani masdarani. قال يقول قيلا او يقول قالا هذا يقال هذا يقال ويقول قيلا وقالا فهذان مصدرا فالمعنى انه صلى الله عليه وسلم ينهى عن ان يحدث الانسان بكل ما يسمع يحدث بكل ما يسمع يحدث به فيقول قيل كذا وقال فلان كذا اعتمادا على السماء يقول فلان قال فلانة أو قالت فلانة قالت الجزيرة قالت بي اف ام قالت ال سي اي هذه فتنة والله عظيمة فتنة عظيمة أي نعم فالمقصود منه المبالغة في زجر من ذلك الأمر وإن القول الصادر من المكلف لا يخلو من حالين إما أن يكون له وإما أن يكون عليه لا ثالث لهم لا ثالث لهم إما أن يكون هذا الكلام لك إما أن يكون عليك خلاص أي إن كل قول يصدر من المكلفين إما أن يكون في صحائف حسناتهم كذكر الله وما والاه مما ينطق به اللسان وهكذا وما يوالي الذكر كثير لا يدخل تحت الحصر في مقام كهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة وإسداء الخير وتوجيه الضال وتعليم المسترشد وتوجيه الناس Non, donc on finit sur ça, bien Allah. Puis il dit Qila wa qal. Donc Qila wa qal, dans la langue arabe, on dit c'est des masdar. C'est des racines. Ces deux mots-là, c'est des racines. D'accord ? Ça vient du verbe qala, dire. Donc il a répété ici, et il a enchaîné les deux masdar, et il est pour montrer l'importance et la gravité de sa réprimande, du fait qu'il est interdit. Le fait de rapporter tout ce que la personne entend. Le fait de rapporter tout ce qu'elle entend, à droite, à gauche. D'accord ? C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le fait de propager tout ce que tu entends, tu le propages. Un tel a dit, une telle a dit, l'autre il a parlé sur l'autre, il a parlé sur lui. À la télé, ils ont dit. Naam ? Puis il dit que la parole qui sort de la bouche de la personne se trouve obligatoirement dans un des deux cas. Soit la parole, elle est en ta faveur, c'est-à-dire elle est bénéfique pour toi, ou soit elle est contre toi. Yawm al-Qiyam. Soit elle est pour toi, soit elle est contre toi. Il n'y a pas une troisième possibilité. Toute parole qui sort de la bouche d'une personne responsable, hein, eh bien, elle va se trouver, ou elle peut se trouver dans ce qu'on appelle les sahaif hasanatihim, dans les pages de ses bonnes actions. Ou à l'inverse, dans les pages de ses mauvaises actions. Donc les bonnes actions, telles que le rappel d'Allah, et tout ce qui va avec. D'accord ? Donc, les bonnes paroles, il y en a énormément, je crois. Il y en a énormément. Donc, c'est indénombrable. Parmi elles, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le blâmable, le fait de conseiller son frère, le fait de dire une bonne parole, d'orienter celui qui est égaré. Tu l'orientes, tu le conseilles, d'enseigner à celui qui veut apprendre, tu lui enseignes. Hein ? D'orienter les gens de manière générale. Tout ça rentre dans tout ce qui est bonne parole. Et les paroles qui te seront donc profitables yawm al-qiyama. Nas'alullah tabarak wa ta'ala an yusallimana min kulli su wa min kulli fitan wa bala wa min kathrati su'al wa qila wa qal wa min kulli ma naha النبي صلى الله عليه وسلم عنه والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك